Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 14h, André Berkoff.
Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
Et non seulement nous sommes en guerre, mais alors nous commençons à avoir des généraux. Et oui, alléluia, alléluia. Il est né le divin masque pour tous. Voyez, aujourd'hui, eh ben, tous le masque, les masques pour tous, même l'Académie de médecine le dit, et c'est vous dire, et on va parler évidemment des dentistes qui se rebiffent, hein, et c'est pas seulement les sans-dents qui se rebiffent, c'est aussi les dentistes, et pourquoi ? L'étonnante instruction de la préfecture de police aux policiers pour les émeutes ou pour les moments de violence à Paris et la Petite Couronne, et oui, ce n'est plus les mêmes que l'année dernière, là. Faut plus cogner, on peut cogner chef, non, mais on y va doucement et pas trop de contact. Et puis, on reçoit la journaliste Sandra Despuites, journaliste belge, qui raconte avec des révélations étonnantes, restez avec nous, c'est exceptionnel, sur l'OMS, la direction de l'OMS, ses liens avec la Chine, avec Bill Gates et ce coronavirus. Comment tout cela s'est passé? On en parle pendant toute cette heure et ensuite ce sera à vous à partir de 13h. Comme vous le savez.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et on se souvient, c'est pas vieux ça, c'est pas vieux. Le masque, ça sert à quelque chose, le masque pour tout le monde. Mais non. Pour le personnel soignant, on comprend, le masque, on va voir. Et puis tout d'un coup, patatras, alléluia, je vous le disais, il est né le divin masque. L'Académie de médecine va parler, l'Académie de médecine, la haute autorité en matière de santé en France, a parlé. Eh bien, on va nous aussi en parler.
Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour.
La vie est un carnaval et le monde est un immense bal où nous tournons inlassablement.
Et vous allez me dire, qu'est-ce que Georges Guettari vient faire avec La vie est un carnaval? Et quel carnaval? Mais au carnaval, on porte des masques. Et oui, et l'Académie de médecine, en général très prudente, notre haute autorité, hein, évidemment, les sages, on peut dire, le Conseil constitutionnel de la santé, allez, disons ça comme ça. Eh bien, là, depuis en début avril déjà, ils avaient dit, vous savez, le port du masque, pour tous, ça me paraît important. Mais là, le communiqué du 22 avril est très clair. On n'attend pas le 11 mai. Je vous lis une partie. Il dit, malgré l'évidente nécessité d'une telle mesure, donc le port du masque, malgré son acceptabilité attestée par l'anticipation de nombreuses personnes qui ne sortent que masquées, des objections de principe retardent sa mise en œuvre et favorisent la persistance d'une transmission du virus dans la communauté. Restreindre le port du masque dans les seuls transports en commun, c'est négliger tous les espaces publics où le risque demeure. Subordonner cette obligation à la fourniture gratuite de masques par l'État, c'est conforter la population dans une situation d'assistance et de déresponsabilisation. Attention, hein, c'est du lourd, ce n'est pas les petites phrases là. Enfin, dernier point, pas le moindre, attendre la date du 11 mai pour faire porter le masque aux Français, c'est accorder 3 semaines de répit au SARS-CoV-2 pour qu'il continue de se transmettre. C'est accepter plusieurs milliers de nouvelles infections, donc plusieurs centaines d'hospitalisations et plusieurs dizaines de morts supplémentaires. C'est pourquoi, la France ayant déclaré la guerre au Covid-19, l'Académie nationale de médecine recommande fortement une mobilisation citoyenne pour le port du masque. Eh ben dis donc, c'était pas trop tôt, et ben voilà, l'Académie le dit. Et alors évidemment, les jugements de Salomon étant ceux qu'on connaît, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, hier soir, lors du point presse, eh bien il dit ceci, Jérôme Salomon, écoutez.
J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public, et vous savez qu'il y a un effort très important qui est fait par l'ensemble des industriels français qui vont monter à un rythme de production de ces masques grand public qui sera de 17 millions par semaine à l'horizon du 11 mai. Nous aurons aussi des importations massives. Ce seront des masques lavables, ce seront des masques réutilisables, ce sont des masques pour lesquels nous avons fait des efforts de normalisation qui ont été testés. Il faut que nous apprenions tous ensemble aussi cet ensemble de mesures qui nous permettront de lutter contre la diffusion du virus, car il y aura encore de la circulation du virus après le 11 mai. Il faut apprendre à le poser, à l'adapter correctement à son visage, à couvrir absolument, et c'est très important, le nez et la bouche, à savoir l'enlever et se laver les mains, et surtout à ce qu'on comprenne tous ensemble quels sont les gestes à risque et les situations à risque.
Eh bien, bravo. Écoutez, hein, franchement, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Jérôme Salomon dit « J'ai toujours plaidé pour l'accès aux masques grand public ». Ah bon ? Ah bon ? Eh bien, écoutez, le 4 mars, hein, c'est pas si loin, ça fait, allez, un mois et demi. Voici ce que disait le même Jérôme Salomon sur BFM. Écoutez.
C'est surtout la Société française d'hygiène hospitalière qui confirme que les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Pour quelle raison ? D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, vous vous contaminez quand quelqu'un vous éternue à la figure ou vous touche avec des mains souillées, d'où l'importance du lavage des mains. Et ensuite parce que les masques ont des indications qui sont complètement consensuelles pour tout le monde. Ils sont valables pour les malades, ils sont valables pour les personnes à qui on demande de rester à la maison parce qu'ils sont contact d'un cas confirmé, et ils sont importants pour les professionnels de santé, non pas toute la journée dans la rue ou dans le cabinet médical, mais quand ils sont en contact direct avec un malade.
Eh bien, vous voyez, ça, c'était le 4 mars. Eh oui. Le même Jérôme Salomon, attention, directeur général de la santé, membre de l'équipe de Marisol Touraine en 2013 déjà. Eh bien, voilà. Eh bien, le masque, mais non. Qu'est-ce que vous croyez, ça ne sert pas à grand-chose. Si, pour le personnel soignant, sinon ça ne sert à rien. Et là, c'est magnifique comment on rejoint toujours le vainqueur. L'Académie de médecine le dit. Et mais il n'y a pas que Jérôme Salomon. Regardez ce que disait Édouard Philippe le 19 mars, Olivier Véran, le ministre de la Santé, le 29 février. Écoutez.
Le port du masque en population générale n'est pas recommandé.
Personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un.
Voilà, c'est magnifique. Écoutez, c'est formidable parce qu'à chaque fois, on voit qu'on est gouverné. On voit qu'on a des gens qui ont la connaissance, la cohérence, la permanence. C'est toujours ça, c'est bien. En un mois à peu près, ils se sont aperçus. Après tout, on peut comprendre, on ne savait pas, ils ne savaient pas, eux aussi, oui. Mais il paraît qu'il y en a un qui est neurologue, l'autre qui est médecin. Bah oui, mais écoutez, on peut changer, hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, voilà. Et évidemment, pour couronner le tout, nous n'allons pas nous priver d'écouter Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, là, le 20 mars. Donc, il y a encore un mois et quelques, écoutez Sibeth Ndiaye.
Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, bah, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne.
On s'en lasse jamais, hein, celle-là.
Non mais écoutez, c'est formidable, Jean-Marie. C'est là où on découvre vraiment la poésie. C'est vrai que pour porter un masque, ouais, il faut avoir fait des études. Au moins, aller faculté, université. Non, mais ça prend du temps, ça. Il faut d'ailleurs instaurer des diplômes de port du masque, comment on le met pour pas attraper le virus. C'est magnifique. Non, c'est des moments formidables, ça. C'est-à-dire, c'est des moments où, encore une fois, en quelques semaines, en quelques jours, eh bien, on disait, mais non, c'est pas la peine. Pourquoi ? Et on le sait, pourquoi ? On l'a dit, pourquoi ? On va revenir. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de masque, qu'il n'y avait pas assez de masques. Donc, ils ont corrigé. Ils le savaient que le masque était nécessaire. Mais comme il y a pénurie, au lieu de dire aux gens, écoutez, on a eu nos prédécesseurs et tout ça, et pourquoi pas, on a eu un vrai problème parce qu'ils ont abandonné, ils n'ont pas cru à la pandémie, on ne vous croit pas à l'imprévisible. Donc voilà, eh ben, pas du tout. Ils ont dit, mais non, le masque, ça ne sert à rien. Et puis, ils se sont aperçus que quand même, et tous les médecins le disaient, et beaucoup, et il a fallu attendre, encore une fois, l'Académie de médecine qui dit, attention, ils vont plus loin là. Ils disent, n'attendez pas le 11 mai. Le 11 mai, c'est dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, et ça va faire encore des infectés, des hôpitaux encombrés et des morts. Et alors là, du coup, changement, c'est magnifique, je veux dire. Moi, j'adore, vous savez, le retournement de veste, aujourd'hui, on n'y est plus. On est pratiquement au retournement de pantalon. Mais si ça peut arrêter le coronavirus, eh bien, ainsi soit-il.
Allez, le
Sud
gouvernement.
Radio, André Bercoff. Ça balance pas mal. Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Quel dentiste son état, pourra m'arranger ça. Oh, la salle d'attente est bourrée de gens.
L'extraordinaire, l'éternel blues du dentiste de Henri Salvador, magnifique. Et oui, mais les dentistes aussi, ils ont le blues, hein. Et ils ont le blues depuis quelque temps. D'abord, on leur a dit, écoutez, c'est plus la peine, allez arrêter les cabinets, là vous avez rien d'urgent, etc. Et puis, il n'y a plus de masques, hein. Parce que les dentistes avaient tous des masques, vous le savez très bien, on est tous allés chez le dentiste, on va tous chez le dentiste, et puis ils ont des masques quand ils vous opèrent la carie, ou etc., telle dent ou tel tartre, etc. Ils enlèvent le tartre, et le détartrage et tout, et ben non, et bien pourquoi ? Parce qu'ils demandaient des masques FFP2, je rappelle que les masques FFP2, ce sont les seuls, en tout cas pour les professionnels de la santé et autres, et c'est ceux qui protègent vraiment, eh bien, tous avaient été réquisitionnés. Et donc, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là, vous voyez, après l'Académie de médecine, etc. Alain Hamzalag, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, docteur Hamzalag, vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes spécialisé dans l'esthétique. Allô ?
Oui, je suis là.
Vous êtes plus spécialisé en esthétique du sourire. J'aime pas beaucoup que, parce qu'on a besoin de sourire.
On soigne, hein. On soigne surtout. Alors, les dentistes n'ont pas le blues, ils ont les boules. Ils ont les boules. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre ministre de la Santé a déclaré donc lundi dernier, il a cité tous les soignants qui allaient être équipés et il ne nous a absolument pas cités. Nous devons reprendre le 11 mai sans FFP2. Ouais. Il faut savoir que les dentistes sont très exposés au coronavirus. On a 15 cm du patient et que nos instruments provoquent une aérosolisation du virus, c'est-à-dire multiplié par 1000 la charge virale. Et on est contaminant, on peut être contaminé nos proches, nos assistantes, nos patients qui, eux, à leur tour, vont contaminer leurs proches. Alors, nous demandons tout simplement la levée de cette réquisition des masques. On ne mendie pas de masques au gouvernement. On veut tout simplement que nos centrales d'achat puissent nous approvisionner en masques. Nos masques, on va les payer. On ne demande rien du tout à l'État. Alors, ça fait 38 jours que les Français sont pratiquement sans soins. Il y a des gardes qui sont assurés par l'ordre des dentistes. Ces gardes ne peuvent assurer les soins de toute la population. Et il y a un réel danger à cette absence de soins. Il faut savoir que une infection dentaire, maltraitée ou pas traitée, peut provoquer une septicémie mortelle. Il faut savoir qu'une infection dentaire peut également aggraver un diabète, aggraver des maladies cardiaques ou d'autres maladies, peut même provoquer, si une infection n'est pas traitée, un AVC. Donc, nous demandons de toute urgence à pouvoir avoir accès à ces masques FFP2. Mais on n'attend rien du gouvernement. On veut que nos centrales d'achat nous livrent et que nous leur payions ces masques, tout simplement.
Alors, Alain Hamzalag, justement, quand vous dites il y a 38 jours, mais quand vous avez demandé ça, quand on vous a dit quoi ? Non, tout est réquisitionné, il n'y a pas de masque pour vous ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Suite aux déclarations de lundi dernier, la population des dentistes a été totalement, totalement sidérée. Suite à notre colère, notre forte colère, on n'a pas cassé les voitures, hein, je vous rassure, on n'a rien fait, on nous a dit qu'on allait nous donner 150 000 masques FFP2, vous divisez ça par 48 dentistes, ça fait 3 masques 75 par cabinet. Vous comptez cabinet assistant, ça veut dire que si on vous donne ces 150 000 masques le 11 mai, on pourra travailler une demi-journée. Oui. C'est pas pensable, c'est pas imaginable. Oui. Voilà, donc on est révoltés, on n'en peut plus, nos patients. Plus que nous, à la limite, les dentistes, c'est pas grave. Mais imaginez les milliers de patients qui sont, on va dire, abandonnés, sans soins. Et qui sont uniquement dépendants.
Et qui ont des rages de dents et qui ont des.
Ouais. Et qui ont des rages de dents.
Mais.
Je vous écoute.
Oui, allez-y. Allez-y.
Surtout le danger à ne pas se faire soigner. Il y a un danger, un réel danger.
Ouais. Vous l'avez exposé, effectivement, mais dites-moi, là, aujourd'hui, effectivement, quand il a fait l'inventaire des métiers, effectivement, il ne vous a pas cité. Mais le 11 mai, donc, si je comprends bien aujourd'hui, vous savez comment vous ravitaillez en masque, vous avez toujours eu, d'ailleurs, ça fait partie de votre métier, comme vous dites, vous êtes effectivement un métier à risque, exposé, et on sait combien, on connaît la distance, de bouche à bouche, etc., enfin, de bouche à tête. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, au fond, vous étiez fourni, et c'est la réquisition, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas assez de masques, c'est ce qu'on a dit avec l'Académie de médecine.
Alors, nous, fournisseurs, donc nos fournisseurs, oui. donc ont vu leurs masques et leurs réserves réquisitionnés. Juste une petite parenthèse. Les dentistes ont fait oui. preuve d'un civisme, c'est tout à fait normal. On a donné tous nos masques, nos protections, c'est-à-dire les surblouses, les visières, les calots, au centre de réanimation, aux médecins de ville et aux EHPAD. On s'est dit qu'on pouvait donner tout, comme on ne pouvait pas soigner, on a tout donné, tout donné. Et oui. on attendait, bien évidemment, la fin du confinement et qu'à ce moment-là, on puisse avoir les moyens pour soigner nos patients en toute sécurité. Là, rien bien du sûr. Tout. 3 masques 75 par dentiste. Donc c'est juste...
Si on divise et dites-moi, c'est la durée d'efficacité du masque, c'est 3 à 4 heures, hein, c'est pas plus.
La durée, c'est 4 heures. Vous en mettez un le matin, un le matin à l'après-midi. Ça fait donc deux masques par praticien. L'assistante doit être protégée au même titre que le praticien, ce qui veut dire qu'on a de quoi tenir même pas une journée. Voilà, tout simplement. Alors, on demande tout simplement que cette réquisition soit levée et qu'on puisse avoir accès à l'achat de ces masques, tout simplement.
Oui, vous ne demandez pas ni de subvention, ni de chômage partiel, ni rien.
C'est un autre problème. On est touché comme tous les Français sur le plan économique. On n'est ni plus ni moins mieux logé que les autres. On le subit et malheureusement, nous ne sommes pas les seuls. Là, nous voulons juste des masques et des équipements de protection individuelle pour soigner nos patients en toute sécurité, vu la contagiosité du virus aujourd'hui. Voilà, tout simplement.
Je comprends. Et donc, aujourd'hui, on vous a promis, enfin, je veux dire, aujourd'hui, à l'heure où on parle, jusqu'au 11 mai, les masques sont réquisitionnés. C'est-à-dire qu'avant le 11 mai, vous ne pouvez rien faire.
Non, on va imaginer que peut-être 10% des dentistes auront peut-être utilisé le système D, se seront débrouillés à avoir par des filières parallèles, des masques FFP2, peut-être, mais 90% des dentistes, dans les conditions actuelles, ne pourront pas reprendre leur activité. Et ce sont les patients qui sont les plus pénalisés. Hein. Bon, il y a des dentistes, mais ce sont les patients qui souffrent. Patients qui ont mal aux dents, ce sont les patients qui ont des infections, ce sont les patients qui ne dorment pas. Voilà.
Bien sûr. Merci Alain Hamzalag, merci de votre cri de colère et on le comprend très très bien parce que qui n'est pas allé, qui n'ira pas chez le dentiste, il y a un vrai problème mais encore une fois c'est lié à ce qu'on a dit, cette pénurie qu'on a voulu masquer si longtemps.
Merci Monsieur Berkoff de
merci
relayer.
À vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous Alain Hamzalag, je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste vous-même. Vous qui nous écoutez sur Sud Radio, est-ce que vous avez pu vous rendre chez le dentiste? Vous avez peut-être eu une urgence effectivement, ils n'avaient pas de masque ces dentistes, ils en ont très peu. Est-ce que ceux que vous avez pu voir éventuellement en avaient? Bien venez nous le dire, 0826 300 300 à partir de 13h sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant.
Ici Sud Radio. Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Alors on ne parle pas beaucoup, hein, sauf un peu à Sud Radio et un peu beaucoup à Sud Radio et ailleurs, mais on ne parle pas beaucoup quand même de ce qui se passe dans les quartiers, Yvelines, Chanteloup-les-Vignes, Trappes, Conflans-Sainte-Honorine, Mantes-la-Jolie, Maurepas, Versailles, où effectivement entre un certain nombre d'émeutiers la police, eh bien ça barde depuis 3 jours après effectivement ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne. Les suites de l'enquête diront si la responsabilité de la police ou du motard, quand même, qui était à 23h sans casque, etc. Mais enfin, ça, on le verra. Mais est-ce que ça vaut ce qui se passe actuellement, pratiquement tous les soirs, dans un certain nombre, et pas seulement d'ailleurs dans la couronne parisienne, mais également à Roubaix, à Tourcoing, à Strasbourg, au quartier de la Méno et ailleurs. Mais pourquoi on en parle? Parce qu'il y a eu quelque chose d'étonnant. On en parle tout de suite.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Arrête, ne me touche pas. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Dès que tes mains se posent sur moi, je suis prête à subir ta loi. Mais
Patricia Carli. Non, ce n'est pas. Mais on pourrait dire, ce n'est pas effectivement un dialogue entre un émeutier et un policier. Non, c'est pas arrête, ne me touche pas. Et il n'est pas prêt du tout à subir sa loi. Mais on en parle pourquoi ? Parce que dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril, la préfecture de police a lancé cette instruction à tous les fonctionnaires de police d'Île-de-France. Voici, suite au phénomène récent de violence urbaine sur l'ensemble de la région parisienne. Une certaine prudence est à prendre en compte de la part des effectifs de voie publique. Il y a lieu, écoutez-moi bien, auditeurs de Sud Radio, il y a lieu d'éviter tout contact avec les perturbateurs sur les interventions ne représentant pas de danger ou de propagation d'incendie afin d'éviter d'avoir des fonctionnaires blessés. Il y a lieu de faire un usage raisonnable et raisonné de l'armement collectif. Juste un mot, on aurait aimé que ce même préfet de police le dise dans certaines manifestations il y a quelques mois où il y a eu des gens qui n'avaient vraiment rien à faire, ni avec les casseurs, ni avec qui que ce soit, ont été soit éborgnés, soit autres. On aurait aimé que la préfecture de police ait les mêmes instructions pour tout le monde. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire au moment où des commissariats de police reçoivent des tirs de mortier, au moment où des voitures de police sont renversées avec un policier dedans, et je ne rappellerai pas Viry-Châtillon, il y a 2 ou 3 ans où des policiers ont failli être brûlés vifs dans leur voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas, et on a demandé à quelqu'un que nous avons reçu souvent, et on est heureux de le recevoir, c'est Noam Manoir, qui est policier, qui est membre du syndicat Vigipolice et qui est auteur d'un livre que je vous recommande, « La France doit savoir, un flic infiltré chez les islamistes raconte » aux éditions Plomb. Noam Manoir, bonjour.
Bonjour André.
Noam, qu'est-ce que ça veut... Alors, cette instruction, on ne comprend pas très bien. Ça renvoie à qu'est-ce que ça veut dire une certaine prudence? Oui, très bien, mais éviter tout contact avec les perturbateurs. On ne comprend pas très bien.
Alors, avec ce type d'instruction, il faut toujours lire entre les lignes, en fait. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, dans la police, on aime les personnes obéissantes, on n'aime pas forcément les adeptes du discernement et de la réflexion. Et donc, quand on donne un ordre de façon, aussi directe et de façon aussi directive, c'est que, justement, ça cache une stratégie. Donc déjà, la consigne, quand on l'interprète, ça signifie que les contrôles destinés à faire respecter le confinement, on oublie. Parce que ne pas entrer en contact carrément. Avec... c'est comment est-ce que vous voulez verbaliser un individu qui violerait le confinement sans entrer en contact avec lui? C'est-à-dire qu'il faut procéder à un contrôle, il faut lui demander les raisons qui motivent sa présence à l'extérieur, et donc si on évite l'entrée en contact, ça signifie qu'on renonce finalement à faire appliquer le confinement. C'est la première chose. Ça signifie qu'on fait, en fait, on procède à des patrouilles dynamiques, mais qu'on n'arrête pas les véhicules, qu'on n'interpelle pas les individus, interpeller au sens large du terme, c'est-à-dire leur parler. Donc on perd finalement le sens de l'autorité policière dans les quartiers, ce qui a toujours été le cas depuis les années 80. Donc finalement, ça change pas grand-chose, sauf que cette fois, c'est écrit. C'est écrit entre les lignes. La deuxième chose, alors moi j'y vois, c'est le fonctionnaire du renseignement qui parle.
Oui.
Alors moi j'y vois une stratégie en fait dont on peut penser qu'elle manque de finesse, mais par contre qu'elle n'est pas dénuée de réalisme, malheureusement, je le déplore. C'est que c'est probablement le ramadan demain, en fait. Et donc, naturellement, de tradition, le ramadan, la nuit, c'est calme. C'est-à-dire que la nuit, il ne se passe absolument rien parce que les gens ont jeûné la journée. Et donc, même en temps normal, si vous voulez, la nuit, c'est normal. Donc, du coup, je pense que la préfecture de police a mis en place une stratégie pour dire, on laisse couler jusqu'à jeudi soir et on va se hâter justement du début du ramadan. Pour que les choses se tassent d'elles-mêmes, en fait. Voilà, c'est beaucoup plus simple que d'aller à l'affrontement. Moi, c'est l'interprétation que j'en fais, ça n'engage que moi.
Vous pensez qu'effectivement, le ramadan arrivant, c'est pas la peine de provoquer des chocs inutiles, en tout cas.
Ils peuvent pas le dire comme ça, parce que ça signifierait à reconnaître la majorité de ces jeunes seraient de confession musulmane, qui seraient sans doute peut-être un minimum pratiquant. Donc, ça se dit pas, politiquement, ce serait incorrect. Donc, le mieux, je pense que c'est de passer une consigne en disant, pendant 2 jours, on serre les dents, on essaie de limiter les dégâts collatéraux et on attend tout simplement. Donc, voilà.
Votre lecture entre les lignes paraît tout à fait.
Bah, si vous voulez, moi j'ai travaillé dans les rouages de la préfecture de police, donc je pense qu'il y a des notes d'ambiance qui ont été commandées au service de renseignement et globalement, bon, ils ont dû faire le lien quelque part entre le contexte, bon, finalement un recoupement entre le contexte de confinement, l'approche du Ramadan, etc. Et il a été pris cette décision de limiter la casse. Après, ce qui n'a pas forcément, bon, ce qui est quand même difficile à subir parce que les assaillants, hein, ce que vous avez appelé les émeutiers, ont quand même brûlé de façon volontaire une école à Gennevilliers, et sans compter les dégâts sur les biens publics et
les voitures, etc., etc.
Enfin, voilà, à un moment où
le cortège habituel.
Oui, à un moment où la France est à l'unisson pour lutter contre le Covid et ses effets mortels sur la population locale. Et donc moi, je suis très inquiet de l'image des quartiers pour l'après confinement, en fait.
Oui, c'est-à-dire aussi, on dit, enfin, le message en tout cas implicite, c'est bon, écoutez, vous inquiétez pas, vous, bon, allez, on va pas trop s'occuper de vous, alors que je veux pas faire, mais imaginez le promeneur, lui, il va pas peut-être casser tout, mais le type qui se balade en forêt et qui voit un hélicoptère ou un drone ou un truc et on lui demande 125 euros, bon, il peut se dire aussi, c'est quand même un peu bizarre, bon, on le sait bien qu'il y a deux poids deux mesures, c'est pas nouveau.
Mais si vous voulez, c'est globalement, bon, je vais aussi déborder sur un secteur qui n'est pas de ma compétence ou de mon ressort, mais globalement, si vous voulez, il y a effectivement un deux poids deux mesures qui peut rendre fou en fait quand on l'observe, parce qu'effectivement, naturellement dans les zones rurales ou les zones qui considérées comme des zones urbaines non sensibles, là par contre, on ne va pas hésiter à verbaliser les personnes dont l'attestation serait raturée ou mal remplie. Donc sachant qu'au bout du troisième procès verbal, vous pouvez être condamné pénalement à une peine d'emprisonnement. On peut pas ne pas faire le lien avec ce qui s'est passé pendant les manifestations, c'est-à-dire où quand il s'agissait de protéger les Champs-Élysées, hein, et c'était tout à fait légitime parce que bon, on a tout à fait le droit de tenir des commerces sur les Champs-Élysées, mais on voit bien que quand il s'agit de Gennevilliers ou de Villeneuve-la-Garenne, les commerces de proximité sont beaucoup moins prioritaires à protéger. Aux Champs-Élysées, on a mobilisé l'armée, aux Champs-Élysées, pour rappel.
Il y avait les blindés. C'est intéressant parce que. Ouais. Non mais Noam Anouar, ce que vous dites, et je crois que c'est frappé au point du bon sens, c'est-à-dire en fait, il y a des endroits où on peut rentrer en contact, on doit même rentrer en contact, on vous donne les instructions en ce sens, et puis des endroits où, allez, il vaut mieux éviter le contact pour les raisons que vous dites. Bon. Mais vous savez, à juste un mot, et je devine là-dessus, j'aimerais avoir votre avis, juste à moyen terme quand même, je ne sais pas si c'est rentable, même au sens le plus, je dirais, cynique du terme.
On parlait des éléments de contexte, excusez-moi de vous couper, mais sachez qu'on est aussi officiellement dans l'entre-deux-tours des élections municipales. Est-ce que vous avez vu un maire ou un candidat de toutes ces mairies, justement, ou de toutes ces villes qui ont flambé ces derniers jours, s'exprimer? C'est-à-dire que moi, j'en ai vu quasiment aucun, si ce n'est que j'ai fait, je me suis exprimé chez vos confrères, chez Cyril Hanouna avant-hier, il y avait un maire adjoint qui prenait, pas de façon directe, mais le parti du délinquant, en disant oui, mais il a quand même reconnu qu'il roulait vite et qu'il n'avait pas de casque, comme s'il avait le choix, bien entendu. Donc, vous voyez, j'ai pas entendu d'élus prendre parti pour la population en faveur de mesures de sécurité ou quoi que ce soit. Ça reste
très difficile. C'est le silence assourdissant. Merci Noam Anouar, merci pour vos éclairages. Merci.
À bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Merci à vous Noam Anouar, je rappelle que vous êtes membre du syndicat Vigipolis et que vous êtes l'auteur de ce livre « La France doit savoir, un flic infiltré chez les islamistes raconte ». Vous habitez peut-être dans un de ces quartiers, finalement, alors dit sensible. Est-ce que vous constatez que la police y est moins présente ou pas? 0826 300 300 et à 13h, vous nous racontez tout ça.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les perles du jour.
Baby girl, t'es ma meuf, t'es ma go. Tu sais que t'es la seule que j'emmène au McDo. Sauce ketchup ou sauce mayo, qu'est-ce que tu veux?
Tu pourras la ramener, ta baby girl, Ico. Formidable. Regardez, on disait à Le Monde d'après. Vous avez vu tous ces experts, sachants, sociologues, proctologues, psychologues et tout, qui disent, et que sera Le Monde d'après? Mais vous allez voir, on a une réponse déjà. Le McDonald's de Moissy en Seine-et-Marne a rouvert son drive lundi. Eh ben, une queue de 3 heures et ça n'arrête pas. Et énorme embouteillage près de la Francilienne. On y va. Le McDo est l'avenir du monde, comme la femme est l'avenir de l'homme. Voilà, ça marche, ça va continuer. On est content. Merci.
Oui, enfin, André Bercoff, vous mangez quoi, vous, en ce moment? C'est vrai aussi qu'on peut les comprendre, ces gens qui se font des pâtes tous les jours à domicile depuis plus d'un mois. Vous arrivez à varier, vous, vos
repas? Mais c'est ce que je viens, de dire, vous savez. C'était pas ironique du tout. Qu'est-ce que vous croyez, Jean-Marie?
Mais c'était pas, un reproche que je vous faisais. Et allez, 0826-300-300.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états.
Marseille, tais-toi, Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voix.
Oui, surtout. T'es peur, Marseille, tais-toi, Marseille, mais surtout, Marseille, ne te masque pas. Écoutez, on sait très, très, très bien, quand même, aujourd'hui, les masques, on en a parlé depuis le début de l'émission, etc. Et il y a des visières, l'entreprise Make It Marseille fait des visières pour les commerçants, pour tout le monde, etc. Et, quand même, et la mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille a commandé des visières pour ses commerçants, pour les commerçants du 13e et 14e arrondissement. Et bien, il se fait que la mairie des 13e et 14e arrondissements est Rassemblement National. Et bien, du coup, Antoine Boudinot, qui est de la mairie, a dit voilà, la mairie du 7e secteur de Marseille aimerait commander des visières de protection à destination des commerçants. Eh bien, le Make It Marseille a répondu, bonjour, désolé, nous ne souhaitons pas contribuer à vos actions, ne partageant pas les mêmes valeurs que le Rassemblement National. Alors là, écoutez, et Dieu sait si vraiment c'est pas mon cup of tea, comme on dit, ou ma tasse de thé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est hallucinant. Attendez, on vous demande pas de choisir et de voter. On vous demande pour les d'acheter des visières de protection à destination des commerçants. Ah, Dieu, non, nous n'aurons pas les mêmes valeurs. Mais attendez, vous croyez que le virus, il est de gauche ou de droite? Vous croyez que le coronavirus fait le choix entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ou qui que ce soit? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est en crise mortelle, on est en crise difficile. Et vous faites la sélection, vous faites le tri. Je trouve ça vraiment lamentable. C'est pas Make It Marseille. Là, excusez-moi, c'est Fake It Marseille. Et c'est dommage.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états.
Et ben voilà, c'est un exemple formidable. Vous savez, on parle de Grigny récemment, on en a parlé, nous l'avons aussi pour les émeutes, ou en tout cas les jets, etc. Et puis les bagarres avec les policiers, les motocross, les ceci, les cela. Eh bien, il y a autre chose à Grigny. Il faut pas oublier, ne jamais mettre la banlieue, les cités, etc., tout dans le même sac, toutes les populations dans le même sac, c'est grotesque. Voilà ce qui se passe à Grigny en ce moment. Des bénévoles livrent plus de 100 colis alimentaires par jour aux habitants les plus défavorisés. 50 bénévoles, présents 7 jours sur 7, sont venus en renfort des associations durant le confinement pour aider les familles les plus démunies de la commune de 30 000 habitants, Grigny. Hein. 80% de logements sociaux. Ici, un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Eh bien voilà, ce chiffre, il y avait 20 colis de denrées alimentaires étaient livrés chaque jour. Aujourd'hui, il a multiplié par 5, donc 100 colis, comme je l'ai dit. Eh bien, c'est formidable, ils tiennent. Et voilà, Grigny, c'est aussi ça. La banlieue, c'est aussi ça. Il y a des crétins qui brûlent des voitures, mais il y a des formidables, des gens, des jeunes, des moins jeunes, des bénévoles, eh bien, qui s'occupent, qui aident. Voilà, il n'y a pas que la pauvreté, il y a des gens isolés, des gens déprimés, et il y a des gens qui bénévolement vont les aider. Et ben bravo Grigny, bravo à tous ceux qui font ça, et ça c'est franchement l'instinct de vie face à l'instinct de mort de certains autres.
Et si vous habitez vous-même à Grigny, bravo à vous d'abord, et ensuite ben, vous nous appelez pareil 0826 300 300 à 13h pour nous raconter les initiatives que vous prenez sur place. Dans un instant nous revenons avec André Bercoff en compagnie de son invité. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états, le face-à-face.
Et tout de suite, nous accueillons l'invité d'André Bercoff, Senta De Peut, journaliste belge et spécialiste des questions de santé.
Senta, depuis bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là, Satan depuis ?
Oui, oui. Voilà,
bonjour.
Je suis là.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, vous m'entendez aussi très bien. On vous entend très bien. Alors, dites-moi. Alors, vous, vous lancez une. C'est pas une bombe que vous lancez. C'est une série de bombes dans un article paru hier dans effectivement dans le Health Impact News. Et je rappelle juste le titre. Et vous dites ceci. Est-ce que le directeur de l'Organisation mondiale de la santé n'est-il pas un terroriste avec ses liens avec Bill Gates, avec la Fondation Clinton, avec le docteur Fauci, on en parlera, avec la Chine et avec un certain nombre de massacres. Alors, le directeur de l'OMS est effectivement sur le grill en ce moment, donc Tedros Ghebreyesus, qui est directeur de l'OMS depuis 2017. Alors, d'abord, Sandra Dupuy, qui est Satan Dupuy, pardon, qui est Tedros Ghebreyesus, rapidement présentez-le.
Oui, oui, ben je pense que moi, je me suis vraiment posé la question, tout comme vous et vos auditeurs, au moment où on l'a entendu dire que la Chine était extraordinaire, qu'ils avaient un leadership formidable dans la crise du coronavirus. Voilà, il n'a pas cessé de faire des éloges quant à leur transparence, etc. Tout à coup, ça...
D'ailleurs,
ça
rappelé Sainte-A...
Donc, voilà.
Exact, il n'avait pas... D'ailleurs, il disait que la Chine n'avait rien caché dès le début. La Chine avait fait pris les très bonnes mesures, etc., etc.
Voilà, tout en au même moment où vraiment il se félicitait de ce confinement extrême, cet enfermement, ces mesures vraiment draconiennes. Je me souviens qu'il avait vraiment plaidé dans le maintien de l'ouverture du trafic aérien avec la Chine, le fait de ne pas avoir des comportements entre guillemets racistes, c'est-à-dire qu'on serait allé tester les personnes revenant de Chine ou les mettre en quarantaine, dépister, etc. Et il a été jusqu'à pousser en Italie, je vous dis parce que ça m'a semblé énorme à l'époque, des campagnes en faveur des Chinois où il fallait embrasser les Chinois dans la rue. Ça s'est fait à Florence.
Ah bon ?
Donc il faut...
Oui. Ah, d'accord.
Donc là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de louche. Et donc, du coup, bah, effectivement, je suis allée enquêter. Et là, on est très étonnés devant. Il est présenté comme le candidat du Sud. Il a toujours l'air très, très aimable, très avant, voilà, très, très, très généreux. Et en fait, il a commencé. D'abord, c'est le premier directeur de l'OMS à ne pas être médecin. Mais il a bien été ministre de la Santé en Éthiopie, mais il a commencé sa carrière politique dans un groupe terroriste marxiste, le Front de Libération du Peuple Tigré, donc dans les années 70, et qui était un groupe qui a fait des attaques à main armée, des enlèvements, des trucs à la bombe, etc. Donc voilà. Et il faisait vraiment partie du Politburo. Donc, ce groupe a finalement pris le régime, je dirais, est venu à la tête du régime. Ils ont renversé, ils ont pris le pouvoir, ils ont renversé, comment il s'appelait,
Mengistu.
Voilà,
Mengistu,
en 91.
Donc, ils ont pris le pouvoir en Éthiopie, c'est ça.
Voilà, ils ont pris le pouvoir en Éthiopie, et c'est à peu près, on va dire, ils dominent toujours le pouvoir depuis lors, c'est pas... L'Éthiopie, c'est une fausse démocratie, je veux dire, c'est une démocratie sur papier, comme beaucoup d'autres démocraties africaines.
Comme un certain nombre,
Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui...
Oui.
Oui. Et il a été ministre de la Santé de 2005 à 2012, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Et puis ensuite, encore ministre des Affaires étrangères. Donc bon, ça
d'accord.
Ça dit bien quand même son caractère plus politique, il est toujours dans les décisions, évidemment, internes du parti, qui était un parti qui avait aussi déclaré une guerre ethnique. Vous savez qu'en Afrique, notamment en Éthiopie, il y a beaucoup de, d'ethnies, de groupes différents, et ils avaient vraiment déclaré d'autres ethnies comme étant leurs ennemis éternels. Oui.
Alors, Satan Dupuy, dites-moi, comment se fait-il que cette personne qui n'a pas été médecin... Bon, d'abord, deux choses, je ne veux pas le défendre, mais il peut avoir changé d'avis, il n'est peut-être plus marxiste-léniniste. Mais surtout, comment il a été élu à la tête de cette gigantesque organisation, aussi importante que l'ONU presque, qui est l'Organisation Mondiale de la Santé ?
Absolument. Mais écoutez, les rapports avec la Chine sont toujours très étroits. Donc, c'est vraiment... Il y a des lettres encore récentes qui datent du début de la crise entre le Premier ministre éthiopien et la Chine. Et bon, voilà, on est frères, ils se traitent de frères, etc., leur amitié éternelle. Et tout simplement, la Chine a... d'abord, ils ont le même, je dirais, type de régime,
de régime,
la répression, la censure, etc. Bon, il y a eu de nombreuses condamnations d'Amnesty International, etc., de Human Rights Watch sur toutes les violations des droits de l'homme et le fait qu'on continue à leur verser énormément de fonds d'aide, alors qu'en réalité, on ferme les yeux sur tout ce qui se passe là-bas. La Chine a investi énormément en Éthiopie, donc on peut dire que 70% de l'infrastructure, les routes, les chemins de fer, tout ça actuellement est construit.
C'est les Chinois.
C'est chinois, c'est construit par la Chine. Mmh. Et surtout, l'Éthiopie, c'est la porte d'entrée pour les Chinois vers l'Afrique. Donc, Tedros a aussi été à présider un sommet de vous savez, l'Union africaine. Donc, il y a vraiment une visée de la Chine aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein, mais à construire cette route de la soie. Et donc à faire des investissements massifs en Éthiopie, y compris dans le domaine de la santé, puisqu'ils veulent, ils sont en train de construire le centre africain de Center for Disease Control, donc centre africain de contrôle des maladies en Éthiopie. Là, évidemment.
En Éthiopie, d'accord.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Et donc, est-ce que la Chine... Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui.
La Chine, donc... Au moment de l'élection,
Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la Chine a aidé matériellement, a vraiment contribué vraiment à la nomination, enfin à l'élection de Tedros?
Bon, apparemment, ça fait un certain temps que la Chine essaye quand même d'influencer les différentes agences onusiennes et en particulier l'OMS. Donc effectivement, je veux dire, parmi les candidats, on voit que deux mois, on est étonné de voir que un mois à peine ou deux avant... les élections à l'OMS. La Chine a invité Tedros à l'université de Pékin pour faire toute une présentation, etc. Je dirais aussi renouveler en quelque sorte son alliance au programme chinois et aussi à l'idée de la Chine unie. Parce qu'en fait, la Chine essaye depuis un certain temps, comme vous savez, de remettre le grappin sur Taïwan. Et Taïwan est exclu de l'OMS depuis des décennies. Et donc, la Chine continue à bloquer. Donc, clairement, Tedros avait soutenu cette vision, on va dire, impérialiste chinoise. Voilà. Oui. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lors du même congrès, on va dire, quelques semaines avant les élections à Pékin, se trouvait également Bill Gates. Voilà, qui lui...
Alors justement, j'allais vous poser la question de Bill Gates. Alors, le rôle de Bill Gates avec le Global Fund, avec Tedros. Alors, Bill Gates était en Chine au même moment que Tedros, à ce congrès.
Absolument, voilà. Donc, dans cette fameuse réunion en mars 2017 à Pékin. Et on est vraiment surpris. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a un speech. On peut lire tout le speech de Bill Gates, qui est vraiment, lui non plus ne tarit pas ses éloges envers la Chine. Et voilà, en les considérant nouveaux leaders, véritablement les nouveaux leaders mondiaux, et les nombreux partenariats que Bill Gates a avec la Chine, que ce soit dans le domaine de la santé, de développement des vaccins, des nouveaux médicaments, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, vous savez qu'il soutient, il est dans Monsanto, Syngenta, etc. Que ce soit dans le domaine des énergies, y compris l'énergie nucléaire, que ce soit dans le domaine évidemment de l'informatique, l'intelligence artificielle, etc. Et dans ce qu'il a recommencé lui aussi, c'est son activité, on va dire, philanthropique. Mais on sait quand même que la fondation Bill et Melinda Gates, c'est le, je dirais, un des plus gros fonds d'investissement, hein, c'est une philanthropie qui rapporte beaucoup, avec des milliardaires chinois. Donc, il y a à la fois le pôle, je dirais, de la Chine communiste, mais en même temps, il y a la Chine capitaliste aussi, comme Jack Ma, hein, qui est le représentant.
BlaBlaCar.
Voilà, et Alibaba, ouais. Hein, donc le
Alibaba, le pardon, pas BlaBlaCar, excusez-moi, voilà. C'est Alibaba, oui, bien sûr,
Alibaba,
je confondais.
Qui est l'Amazon chinois,
oui, mais,
on va dire, voilà.
Et ils
font des partenariats ensemble. Oui.
Je comprends, mais attendez, je me fais pas l'avocat de Gates, mais la question, bon, lui, il fait des, on dit toujours qu'il a, alors oui ou non, on dit toujours qu'il a sauvé des millions d'Africains de la malaria avec l'envoi de moustiques. On dit que tous ces investissements, c'est aussi pour le bien, pour les affaires. Après tout, il a le droit aussi de répandre, effectivement. Alors, est-ce que c'est sa part d'un bon naturel ou vous dites, attention, c'est plutôt une mainmise ou un retour sur investissement encore plus lourd que les investissements eux-mêmes?
Alors, si on regarde, effectivement, si on prend la fondation, rien que la fondation Bill et Melinda Gates, qui fait environ 50 milliards, bien on voit que sur une période de 5 ans, ça c'est des chiffres qui viennent de leur propre fondation, ils ont dépensé, ils ont 23 milliards et demi de dépenses et 28 milliards de rentrées. Donc, en fait, ce sont, disons que c'est un système, alors c'est peut-être compliqué pour tout expliquer ça maintenant, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, comme Lionel Astruc, etc. Mais c'est un système qui permet d'une part de faire pas mal d'évasion fiscale, hein, avec des rentrées, etc., qui viennent de Microsoft, etc. D'accord. D'autres milliardaires, et c'est surtout Warren Buffett, dans Berkshire Hathaway.
Walmart.
Voilà. Ouais. Voilà, tout ça. Et en fait, eux-mêmes investissent dans des fonds d'investissement ou dans des compagnies qui vont, elles-mêmes, ça peut être pharma, etc., qui vont finalement rapporter, je veux dire, il y a peu d'argent qui va en réalité, si vous voulez,
réellement en réalité
en politique.
Ah, bon, allez.
On va dire que c'est de l'argent pour la politique, on va dire, pour la lutte contre le sida ou la malaria, mais s'il s'agit de verser de l'argent à Merck, comme on a dépensé des milliards jusqu'à présent pour développer un vaccin contre le sida qui n'a jamais vu le jour, je veux dire, à qui est-ce que ça profite vraiment?
À qui est-ce que ça profite? Restez avec nous. Oui, restez avec nous. On va parler avec les auditeurs du Sud Radio qui ont des tas de questions à vous poser. Et on reste ensemble et on continue, bien sûr, après les infos. À tout de suite. Merci.
Et vous continuez à nous appeler, 0826-300-300, c'est votre heure qui arrive juste après les informations sur Sud Radio. On sera ensemble de 13h à 14h, André Berkoff et son invité répondront à toutes vos questions, à tout de suite.
Ici Sud Radio, les Français parlent aux Français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et oui, et nous allons parler évidemment avec vous, auditeurs de Sud Radio. Les Français parlent aux Français, les confinés ne parlent pas que aux confinés. Mais une question, Sainte Dupuis. Si on avait, là, en clair, et vous avancez des choses très fortes, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la direction de l'OMS n'est absolument pas indépendante de ses décisions? Elle n'est absolument pas, je dirais, autonome, et qu'elle a autour d'elle des gens qui... je ne dirais pas la possède, n'exagérons pas, mais qui ont prise sur elle, Sainte Dupuis.
Oui, disons, moi, ce que je pense, c'est que l'OMS, comme elle a été conçue fin des années 40, comme étant vraiment une organisation de différents pays, on voit bien où au départ il y avait environ 80%, presque la totalité du budget qui était fait des contributions par selon les revenus des différents
pays.
Mais cet équilibre a complètement changé. Donc aujourd'hui, c'est quand même essentiellement des contributions volontaires, c'est-à-dire que soit quelques pays, comme principalement les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui sont vraiment les deux principaux, ont la mainmise dessus. Et par exemple, des fondations privées comme la Fondation Gates. La Fondation Gates, délai numéro 2 ou parfois presque numéro 1 au niveau vraiment du financement de l'OMS. Donc oui, certainement, ça fait déjà, c'est un mouvement qui est là depuis une vingtaine d'années où ce sont à la fois des corporations et certains États qui dirigent les décisions de l'OMS, ça c'est clair. Donc on voit bien qu'avant, juste avant l'élection de Tedros, d'ailleurs le journal Politico, qui n'est pas spécialement un journal particulièrement critique, on va dire, avait quand même fait un article très intéressant, une enquête vraiment auprès des gens au sein de l'OMS, et avait titré son article « Rencontrer Bill Gates, le médecin le plus puissant du monde ». C'est-à-dire qu'il est là, mais il est là à tous les niveaux. Il est là, donc sa fondation donne, selon les années, entre 10 et 12% des revenus, donc les fonds de l'OMS,
du budget
de la fondation.
Ah ouais.
Du budget.
Donc, 10 à 12% du budget, Bill Gates, la fondation Gates seulement.
Absolument, rien que la fondation Gates. Donc on va dire, si on les cite, les donateurs dans l'ordre, et on a les États-Unis qui font à peu près 13-14%, ça dépend des années plus ou moins. Et ensuite, on a juste derrière, on a Bill Gates, la Grande-Bretagne, et à peu près à égalité, et autour de 10%, 9%, et l'Alliance Gavi. Donc l'Alliance Gavi, c'est un groupe, c'est une alliance,
c'est quoi,
pour la vaccination, donc Global Alliance for Vaccination. Donc c'est l'alliance de la vaccination, et qui est à nouveau principalement financée, cette fois-ci c'est un partenariat public-privé, on a à nouveau les États-Unis, la Grande-Bretagne, spécialement la Grande-Bretagne là, et la Fondation Gates, et puis il y a... Il y a beaucoup de capital aussi.
Il y a la Fondation Clinton aussi. Vous avez parlé de la Fondation Clinton. Ouais.
La Fondation Clinton, non ? Oui, ils sont plus particulièrement impliqués dans tout ce qui est le Global Fund et tous les programmes sur le SIDA.
D'accord.
Et là aussi, on peut faire le lien entre Tedros et tout ce qui avait les programmes SIDA avec le Global Fund, parce que l'Éthiopie a bénéficié d'énormément de fonds en provenant de ce fonds, donc du fund. Et il faut dire qu'il y a eu pas mal, il était fort critiqué aussi pour sa gestion. Notamment, il y a eu un audit qui a relevé vraiment des problèmes à la fois dans la gestion des comptes, je parle spécifiquement, globalement, mais alors aussi spécifiquement dans le cas de l'Éthiopie. Et qui est aussi allé voir sur le terrain, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est-à-dire que sur papier on dit voilà, il y a eu autant de centres de santé qui ont été créés, etc., et puis donc ils ont là vraiment envoyé des inspecteurs sur le terrain, et où on s'est aperçu que en réalité il n'y avait pas d'eau potable dans les 10 centres de santé, rien du tout, quoi. Il n'y avait pas de
table. S'est aperçu que c'était pas du tout d'accord.
C'était absolument pas d'accord, ça. Il veut pas de toilettes, il veut pas d'eau potable. Donc voilà, je veux dire, il y a beaucoup de fraudes qui remontent à longtemps. Voilà.
Je comprends. D'accord. On va accueillir nos auditeurs, Jean-Marie.
Tout à fait.
Qui ont sûrement
0826 300 300.
Choses à dire.
Ouais. 0826 300 300. Fabrice nous appelle sur Sud Radio.
Bonjour Fabrice.
Allô, bonjour Monsieur Berkoff.
Oui, bonjour.
Allô, bonjour. Oui.
C'est à vous, on vous entend, c'est Fabrice au téléphone, c'est bien ça.
Vous m'entendez, Monsieur Berkoff?
Très bien, très bien. Allez-y, oui, Fabrice, on vous entend très bien.
Bonjour Monsieur Berkoff, je voudrais d'abord vous remercier, vous et Monsieur Maïsto. Ma question s'adresse à Messieurs Castaner et Macron, directement. On peut comprendre toutes les mesures qui ont été prises, sur le confinement, mais j'aimerais savoir pourquoi traquer les marcheurs quand ils sont seuls, les gens qui vont faire des randonnées en forêt, en montagne, au bord de mer. Où est le problème? Où est le problème sanitaire? Moi, je ne vois pas où est le risque, pour soi-même et pour les autres. C'était ma question.
Bah écoutez, votre question, évidemment, je ne suis ni Macron ni Philippe, mais ce que je peux vous dire, c'est effectivement, c'est une question que je crois, moi je me pose aussi et que beaucoup de gens se posent, c'est évident. Alors il y a deux, si on veut être un peu cynique, on dirait, bah écoutez, 125 euros par personne, ça va rapporter. Si on est un peu plus lucide, et on a eu, je sais pas si vous l'avez écouté au début de l'émission, Noam Manoir, le politique. Et on voit qu'on donne des recommandations de pas trop entrer en contact dans certaines zones où le confinement ne se pratique qu'à dose homéopathique, mais en revanche le randonneur, le marcheur, le ceci, le cela, et bah lui, alors c'est le pelé, le galeux d'où nous vient tout le mal, bien sûr, parce que c'est tellement plus facile, effectivement.
Je me permets de vous dire que j'habite donc près de la frontière suisse et près de la frontière allemande. Les gens, ils sont libres de leur déplacement. On leur demande juste de ne pas se regrouper. Sur les bords du Rhin, de l'autre côté, les gens marchent. Ils sont libres, ils ne sont pas traqués. Et moi, je voudrais qu'on me donne une seule justification. Pourquoi est-ce que les gendarmes... Alors, moi, je suis plutôt en zone gendarmerie. Pourquoi est-ce qu'ils envoient des drones et des hélicoptères sur le massif du Grand Ballon, par exemple, pour traquer les gens qui se promènent? S'ils se promènent seuls, où est le problème? Où est le problème qui... moi, je ne comprends absolument pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on me permet qu'il y ait des files de voitures de je ne sais pas combien pour aller acheter un McDonald's. Et pourquoi est-ce qu'on empêche une personne seule qui a envie de s'oxygéner, en particulier ceux et celles qui vivent en appartement. Pour moi, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas la finalité.
Mais écoutez, je crois que effectivement, qui peut poser et on transmet. Transmis à qui de droit, c'est-à-dire au prince qui nous gouverne, et on verra bien. Mais votre question est. On est d'accord.
Tout le reste, je le comprends tout à fait. La fermeture des commerces, la mise en sommeil de l'économie, ça peut se comprendre. Mm-hmm. Mais ça, je ne comprends pas. Vraiment, moi, je suis surpris et j'en profite d'ailleurs pour remercier les gendarmes et les policiers que je trouve extrêmement professionnels. Très polis et qui ne sont, du moins ici, vraiment pas en tout temps. Voilà.
Très bien. Merci. Merci en tout cas, Fabrice.
Merci, monsieur Berkoff. Bonne journée à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Bonne journée, Fabrice. Merci de votre appel. 0826 300 300. On retrouve Colette sur Sud Radio.
Allô, vous m'entendez?
Colette.
Bonjour, très bien. Monsieur Berkoff, et bonjour tout le monde. Bonjour. Merci, monsieur Berkoff. En France, tout le monde, du plus jeune au plus âgé, est concerné par la dentition, y compris le président de la République et les membres du gouvernement. Mais pour eux, s'ils ont un problème, ils seront très vite pris en charge. Il y aura des masques. Aussi, je demande avec insistance à toute la France, par Internet et par courrier, d'envoyer tous les 3 jours des pétitions massives et urgentes au président de la République pour que les dentistes reçoivent en urgence tous les masques FFP2 dont ils ont besoin et que le nombre total de pétitions soit communiqué dans les médias pour le 8 mai au plus tard. Voilà ce que j'ai à dire, monsieur Berkoff. Je lance un appel à toute la France pour envoyer des pétitions répétitives au président de la République. Voilà.
Eh bien, écoutez, ce sera fait, en tout cas, votre appel est répercuté, évidemment. Et je crois que ça va faire très plaisir à Alain Mzalag, que nous avons reçu en début d'émission, le chirurgien.
Entendu.
Eh bien, il réclame, évidemment, la même chose que vous. Il réclame ça pour ses patients, pour les patients de tous les dentistes. Et évidemment, il s'agit de pas, comme d'habitude, le 11 mai et la dernière minute pour faire les choses. J'espère que votre appel sera suivi, écouté et suivi. Merci encore.
Il faut, vous en parliez très souvent. Rappelez qu'il faut envoyer pétition au président de la République,
on le dira.
M. Berkoff.
On le dira.
Encore.
On le dira.
Merci beaucoup.
Sans faute.
Merci
je vous en prie.
Beaucoup. Au revoir.
Le message est passé, Jean-Marie. Colette, sur Sud Radio. Vous continuez à nous appeler, 0826 300 300. On est toujours en direct jusqu'à 14h en compagnie d'André Berkoff et de son invité Santa Depuis. À tout de suite sur Sud Radio.
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et nous sommes toujours avec Santa Depuis, journaliste belge, qui a enquêté de façon passionnante et explosive, il faut le dire, mais elle prend ses responsabilités, sur l'Organisation Mondiale de la Santé et son actuelle direction. Et puis nous avons, je crois, un auditeur d'Arcachon.
Tout à fait, André. C'est Yves qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour à vous, Yves.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Yves d'Arcachon, merci d'avoir sélectionné mon appel. Oui, simplement, ce que je voulais dire, oui. C'est que, en fait, pour moi, les événements actuels, c'est le changement réel de siècle entre le 20e et le 21e. Parce que même si 100 ans, c'est une période intéressante pour noter des grands changements, ben, il y a peu de raisons pour qu'en fait le changement effectif se passe en l'an zéro. Et pour moi, j'ai observé que c'était toujours décalé. Bon, par exemple, en 1914, c'est le début du 20e et la fin du 19e avec la guerre mondiale.
Mais Yves, oui, mais pas le point de remonter à l'histoire. Pour vous, en quoi se caractérise ce changement de siècle aujourd'hui?
Simplement, on a eu 1914, 1815, 1715, 1610, 1515, 1438 pour les changements des siècles précédents. Bah là, en fait, donc la pandémie actuelle et qui vient de Chine et tous les faits que la Chine est en train de réécrire l'histoire, ça s'impose auprès de l'OMS, etc. C'est bien la fin de du 20e avec la fin de la prééminence américaine et le début de la prééminence de la Chine. Les 1 milliard de Chinois ne savent pas qu'il y a eu Tiananmen. Et bientôt, nous, on aura peut-être aussi oublié qu'il y avait Tiananmen, quoi, si vous voulez. Donc, on est en plein changement.
D'accord, oui. On est dans le monde chinois, dans le monde de la prééminence chinoise.
La prééminence chinoise, à mon avis.
Voilà. Est-ce que je peux réagir?
Vous en prie.
Allez-y, Sainta, depuis, j'allais vous le demander.
J'ai l'impression. Alors, je suis bien d'accord avec ce monsieur pour dire vraiment là on est à l'aube d'un nouveau monde. C'est pas que chinois, mais je dirais que c'est une espèce d'alliance. Et j'espère qu'elle ne sera pas malsaine parce que c'est pas ça dont j'ai rêvé. Entre, je vais dire, la société de contrôle qu'il y a aujourd'hui en Chine et la société technologique. Qui est là en Chine aussi, et qui est aussi la vision défendue par Gates. Et c'est là où ils se rejoignent. Je crois qu'il est sincère, je veux dire, dans sa vision d'une société technocratique, mais complètement totalitaire. Et on voit que, je veux peut-être revenir sur Gates, mais on voit qu'il est tous les niveaux, si vous voulez. Il est au niveau de la régulation, il était au niveau des actions, il finance l'Imperial College qui fait chaque fois les modèles pour la pandémie. Maintenant, on allait avoir 60 millions de morts, je pense qu'on n'y est quand même pas. C'était les mêmes bonhommes, Neil Ferguson avec le H1N1.
La modélisation.
Il finance les solutions. Il finance les vaccins avec l'EPI. Il finance l'idée 2020, qui est ce programme. Puisque maintenant, l'objectif, vous avez bien entendu, c'est d'avoir un passeport d'immunité, un passeport de vaccination digital qui sera lié à notre carte d'identité. Mais après, à quoi? À Big Data, à finalement tout ce qu'on veut dessus, et qui pourrait conditionner l'accès à tel endroit, à votre boulot, au fait de pouvoir sortir, d'aller au supermarché, de quoi que ce soit. C'est déjà un peu le cas en Chine. Donc en Chine, ils ont actuellement sur leur téléphone une sorte de code qui leur permet de dire, voilà, je suis
tel endroit, avec tel endroit, avec telle personne.
Donc c'est quand même quelque chose qui est sans limite. Je veux dire, on n'est pas pour le chaos et l'anarchie, mais jusqu'où ça va, je veux dire. Je pense que...
Parce qu'il est à
tous les niveaux. Si vous voulez, il y a Big Data, il y a la production des vaccins, il y a la création des événements. Vous savez bien qu'en octobre, ils ont fait une répétition de pandémie de coronavirus au mois d'octobre.
Ou en Chine, en Chine.
Non, 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 aux États-Unis, ça s'appelle Event 201. Vous allez regarder, oui. Il y a toutes les vidéos, c'est très intéressant.
Oui, mais alors, Santa Dupuis, comment vous expliquez, si vous dites ça, qu'il y a eu répétition en octobre, comment vous expliquez qu'à Davos, qui est le lieu de rencontre de tous ces braves gens, je veux dire, les hautes, les grands entrepreneurs, les chefs d'État, etc., ils ont pratiquement pas du tout parlé de pandémie, et encore moins de coronavirus. C'était fin janvier, Davos. Comment vous expliquez qu'ils étaient encore, ils considéraient ça comme, une chose un peu embêtante, mais enfin, pas plus que ça. Et c'était fin janvier. C'est-à-dire que c'est ça.
Je ne me l'explique pas véritablement pour l'instant, parce que les forums précédents, ils en ont parlé, que ce soit les G7, les G8, je pense encore en Argentine, etc. Ils ont fait des investissements énormes, il y a des pandemic bonds, comme vous savez, etc. Donc, pourquoi justement, tout à coup, le silence en janvier? Peut-être qu'on était déjà trop dedans. Je ne sais pas très bien.
Ouais, peut-être.
Mais en tout cas, vous pouvez aller voir, je veux dire, c'est très intéressant. Pour moi, ce qui se passe avec l'Event 201, c'est intéressant à écouter. Ça a été fait avec l'université Johns Hopkins et la fondation Gates et de nombreux.
On va aller voir et on demandera aux auditeurs d'aller voir. Ouais. Mais juste un mot là-dessus, avant de redonner la parole aux auditeurs. Très important, par rapport, on revient à la pandémie actuelle, au coronavirus actuel. Aujourd'hui, effectivement, après que Trump ait pris ses positions par rapport à l'OMS en disant oui, et puis la Chine nous a trompés, on ne nous a pas dit ce qui s'est passé exactement, etc. Est-ce qu'à votre avis, ça va continuer? C'est-à-dire que la grande polémique qu'il y a aujourd'hui, je ne parle même pas du laboratoire, on ne va pas rentrer dans les détails, laboratoire, virus sorti du laboratoire ou pas, mais est-ce que la mise en question de l'OMS va être suivie, va être augmentée, va être agrandi ou pas? Vous voyez ça comment? Par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui.
Oui, bonne question. Alors déjà, Trump avait déjà décidé de supprimer les financements à certains programmes dès son entrée, dès le début de son mandat, notamment tout ce qui était les programmes de planning familiaux de Bill Gates, etc. Je pense que maintenant, je ne sais pas si vous avez suivi, moi j'étais tout à fait surprise quand il s'est prononcé très tôt pour la chloroquine, là.
Tout à fait.
Il y a eu quelques déclarations de Trump où on l'avait vu à un moment, je ne sais pas, on aurait dit que c'était plus une imploration ou une prière pour dire essayez-la.
Il veut remettre l'Amérique au travail, le brave.
Voilà, donc exactement. Donc moi je pense que oui, le fait est que le Congrès est complètement sous la domination du monde pharmaceutique. Si on écoute quelqu'un comme Robert Kennedy Jr., qui est le fils du senior et le neveu de l'ancien président, voilà, mais il dit très clairement, le pharma donne peut-être 4 fois plus aux partis et aux élus que peut-être le pétrole et l'armement. Donc c'est vraiment le tout premier lobby au Congrès. Donc je pense que Trump, il est relativement isolé, mais c'est vrai que là maintenant, le peuple, c'est-à-dire que Gates a beaucoup avancé, et la task force avec Fauci, ils se sont beaucoup mis sur l'avant-scène en disant,
on va tout reprendre, on a les médicaments, on a tout ça.
Vous allez tous être enfermés jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, et puis il y aura tous ces contrôles ID 2020, etc. Et là, il y a quand même des gens qui ont commencé à dire, c'est pas Bill Gates qu'on a élu, et qui demande, qui est une enquête. Ouais.
La lutte est féroce. De Bill Gates, de tout ça. La lutte est engagée aussi. Oui, on n'a pas parlé de Soros, mais on en reparlera. Merci Santa, restez avec nous. Jean-Marie, on a le temps de prendre un autre auditeur avant.
Oui, on aura le temps, juste après cette toute petite pause. Vous continuez à nous appeler, nous remercions Yves de son appel. Dans un instant, on sera en direct avec Christophe qui nous appelait depuis Pibrac. A tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Les masques, les dentistes, l'OMS, Bill Gates, qui nous gouverne? Est-ce nous qui menons le monde et c'est le monde ou c'est le monde qui nous mène? C'est à vous, auditeurs de Sud Radio.
Et nous sommes toujours en compagnie de l'invité d'André Berkoff, Santa Depuis, qui est journaliste belge spécialisé dans les questions de santé, avec qui nous parlons de l'Organisation Mondiale de la Santé. 0826 300 300, direction Pibrac. On retrouve Christophe sur Sud Radio.
Bonjour Christophe.
Bonjour Monsieur Berkoff, je suis très content d'intervenir sur votre antenne. Je souhaitais...
Content de vous accueillir.
Oui. Je souhaitais, parce que tout à l'heure j'ai entendu le dentiste parler de finalement des souhaits d'avoir des masques et qu'actuellement il y avait des gros inconnus avec 3,5 masques par praticien, enfin voilà, qu'on allait vers quelque chose d'assez difficile. Moi je voulais intervenir parce que j'ai été pompier de Paris pendant 18 années, maintenant je travaille à Gaz de France et je vois qu'il y a des solutions. Oui. J'ai été spécialiste radiologie chimique, donc NRBC, donc c'est tout ce qui peut être attaque nucléaire, radiologie chimique, voilà. Et donc finalement, il y a des éléments. On a des industriels, comme on dit en France, on a pas forcément de pétrole, mais on a aussi des idées. On peut avec des imprimantes 3D faire assez rapidement relancer l'outil industriel et mettre des masques à pression positive. Le principe, c'est que finalement, on serait plus avec les contraintes d'un masque papier qui laisserait passer des particules mouillées parce qu'on serait près de la bouche de la personne qu'on soigne. Et là, voilà, en plus, on aurait un outil qui serait réutilisable. On pourrait éventuellement rajouter un système de filtre. Et voilà, et les praticiens pourraient travailler de façon tout à fait sereine. Et au moins, on éviterait de dénombrer des victimes dans les praticiens auxquels on va avoir énormément besoin quand tout va repartir.
Mais Christophe, vous voyez, quand je vous écoute, moi, ça me fait hurler. Pas vous qui faites hurler, au contraire. C'est que, qu'est-ce qu'ils attendent? Enfin, je veux dire, des gens, ils le savent, ça. Enfin, je pense, j'espère pour eux qu'ils ont des gens autour d'eux depuis 2 mois, qui savent ça. C'est extraordinaire. On dit, nous sommes en guerre. Si on est une économie de guerre, c'est une économie de réquisition. Et ce que vous dites, pourquoi on n'a pas suffisamment d'industrie qui pourrait faire ça? Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Bon Dieu, quand vous expliquez ça, c'est très clair, hein. Je veux dire, vous l'expliquez très clairement, très simplement. Où est le problème? C'est pas le pétrole. Justement, c'est les masques. Il y a les moyens de le faire. Non. Eh ben, jusqu'à présent, vous voyez, les pharmaciens n'avaient pas le droit d'en vendre. C'était réquisitionné. C'était ceci, c'était cela. Les stocks qui n'étaient pas renouvelés. Mais bon Dieu, où est l'initiative? Où est l'invention? Il faut que ça soit les Français. Il faut que ça soit des gens qui tricotent des masques en soie, etc. Enfin, c'est quoi ça? Vraiment, on est surpris, Christophe, hein.
Vous savez, ça fait 7 ans que j'ai quitté cette belle institution des pompiers de Paris. Maintenant, je travaille aussi pour une entreprise qui est très intéressante, qui porte des valeurs. Et voilà, j'ai 47 ans, comme on dit, on ne vend plus du rêve. Et quand j'écoutais vos intervenants, je vois bien qu'il y a des choses qui se trament derrière, qui sont loin d'être simples, avec des enjeux financiers, des choses. Voilà. Ouais. Quoi qu'il en soit, moi, je voulais vous parler concrètement, aller à l'essentiel, sauver des vies, permettre à ces praticiens d'intervenir. Voilà, on a maintenant des outils, on a des imprimantes 3D, on a des choses, on peut modéliser, on a vu qu'on pouvait adapter des masques de Décathlon et en faire des outils de respirateurs. Ouais. On peut faire des choses. Donc maintenant, il va falloir peut-être mettre quelques coups de pied aux fesses pour pas dire autre chose à certaines personnes et peut-être y aller là, parce que on parle du déconfinement, mais c'est pas dans 2 mois qu'il va falloir se réveiller, parce que pour lancer ces choses-là, on peut les faire très vite, mais le temps, on ne peut pas le compresser, quoi, à un moment donné, quoi. Donc, il faut...
Christophe. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, je crois qu'effectivement, il faut aussi peut-être actionner une usine de coups de pied aux fesses. Peut-être que ça servira aussi. En matière de productivité, on verra. En tout cas, merci de rappeler ces choses de base et que vous avez connu par votre activité.
Voilà, merci
à vous, Christophe.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup et bonne journée du côté de Pibrac. On remonte vers Paris. On donne la parole à Thérèse au 0826 300 300.
Bonjour Thérèse.
Bonjour à vous. Voilà, je suis psychologue clinicienne. J'exerce dans un cabinet en région parisienne. Donc, cabinet oui. que j'ai dû faire fermer à vos circonstances. Mmh. Et donc, ce matin, oui. je me suis rendue à la pharmacie pour me procurer des masques parce qu'effectivement, j'ai l'intention de reprendre, d'ouvrir mon cabinet le 11 mai. Et on m'a dit, est-ce que vous faites partie de la liste des personnels de santé? Bah, je dis, a priori, je pense. Et puis, donc, elle m'a regardé, non, vous ne faites pas partie, donc je ne peux pas vous procurer de masque. Alors, je reçois des enfants en thérapie, enfants et adolescents, une fois par semaine, et ces thérapies sont arrêtées depuis 8 semaines. Et je souhaiterais quand même les reprendre. Je n'ai pas de masque.
Bien sûr.
Je fais comment?
Ah, parce que vous, parce qu'en tant que psychologue clinicienne, vous ne faites pas partie du personnel de santé,
non,
c'est ça?
Je ne fais pas partie du personnel de santé, comme ces chirurgiens dentistes, voilà. Et des thérapies enfants et adolescents, c'est quand même, voilà. Mm-hmm. Et c'est des enfants que, bon, il faut les suivre régulièrement et ils ont besoin de reprendre un suivi thérapeutique, ça, c'est sûr. Mm-hmm.
Donc, bah écoutez, on va transmettre à monsieur Jérôme Salomon. Ouais, on va au directeur général de la santé qui, comme vous le savez, a dit maintenant, mais oui, il faut des masques pour tout le monde d'ailleurs.
Alors peut-être
qu'il faut des masques pour tout le monde. Il faudrait peut-être qu'il y en ait pour des psychologues cliniciens, hein, pour des dentistes, pour d'autres. Hein. Peut-être qu'ils se rappelleront qu'il y a des professions où il y a des enfants, des adolescents qui viennent voir ces psychologues et,
Les orthophonies, peut-être, les psychomotriciennes, enfin, je ne sais pas. Mais nous, nous n'en avons pas.
Vous n'avez pas.
Et pourtant, on parle des psychologues.
Merci Thérèse, en tout cas, nous, on est là pour être les haut-parleurs. On essaie de haut-parler pour vous, mais je trouve ça effectivement tout à fait, je ne dirais pas lamentable, mais tout à fait triste. Merci Jean-Marie.
Eh bien, tout de suite, on est à Étampes, 0826 300 300. Bonjour à vous, Sébastien.
Et bonjour à tous. Bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Je suis chaud, là. Très, très chaud. D'ailleurs, je suis un peu déçu, M. Berkoff, là, parce que j'avais proposé ma candidature à M. Macron sur la dernière fois avec vous. Il m'a jamais rappelé. Hein.
Mais pourtant, on lui a transmis. Vous savez, il est très occupé. Il est très occupé, il faut comprendre. Il est très
occupé. Mais je crois que, en fait, je suis trop intelligent. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont pas embauché.
Ça doit être ça. Ah oui, alors ça, c'est un défaut. Non, il faut savoir ce qu'on veut, hein, Sébastien. On peut pas être intelligent et dirigé. Enfin, c'est pas, il faut choisir, hein. Alors, dites-moi, Sébastien.
Ouais,
dites-moi,
vous écoute. Alors, en fait, moi, je voulais parler des banlieues. Parce que moi, je suis issu des banlieues. J'ai grandi dans un quartier populaire. Et en fait, je les comprends, moi, les jeunes des banlieues, parce que, en fait, on les a parqués dans des taudis, on leur a fait miroiter un espèce d'ascenseur social. Et après tout,
taudis, vous y allez un peu fort, taudis. Hein. Moi, je suis allé aussi écouter un peu partout.
Monsieur Berkoff, moi, je me rappelle, dans le quartier où je vivais, il y avait pas d'isolation, il y avait des rats partout. Aujourd'hui, vous allez dans, là, j'ai passé dans les mureaux, allez voir aux mureaux, monte la jolie. Montfermeil, la cité des
C'est encore comme ça.
C'est vrai qu'il y a des réhabilitations, mais les réhabilitations de façade ne servent à rien. C'est alors moi, ce que le message que je veux dire, c'est que j'invite les jeunes de banlieue à arrêter de cramer les bagnoles de leurs voisins et de faire comme les gilets jaunes, monter sur Paris. Ce qu'il faut, c'est que toute la France soit rassemblée. Gilets jaunes, jeunes des banlieues, ouvriers, cadres, etc., qu'on soit tous rassemblés, parce que ce que fait Macron, et les prédécesseurs aussi, c'est nous diviser. Vous voyez ce que je veux dire? Les contrôles qu'il n'y a pas dans les banlieues et qu'on fait, par exemple, sur les gilets jaunes, c'est fait pour nous diviser. Parce que s'ils veulent, la police et les CRS, ils bloquent un quartier en... Mais s'ils veulent, les quartiers sont bloqués en une heure, deux heures, s'ils veulent vraiment le faire. Mais ils ne le font pas, pourquoi? Parce que déjà, ils veulent acheter la paix sociale. Parce qu'il y a beaucoup de trafic de drogue. Je pense que la drogue, c'est mauvais pour la santé, mais quand vous avez une famille à nourrir, que vous envoyez 20 CV et qu'il n'y a personne qui vous répond, au bout d'un moment, vous trouvez une solution. Ou alors, vous voyez, vous allez vivre avec 1200 balles par mois, alors que vous faites du trafic de drogue, vous pouvez vous acheter une voiture, partir en Thaïlande. Enfin, si vous voulez, il faut les comprendre, ces jeunes-là. Et moi, je pense que Marine Le Pen a tort de s'en prendre aux jeunes des banlieues. Les jeunes des banlieues, c'est la France. Et la France, c'est les jeunes des banlieues, qu'ils soient noirs, arabes, juifs. C'est ça, c'est notre identité. Il n'y a pas de problème. C'est notre identité d'aujourd'hui. Et s'il n'y a pas un amalgame de tous ces Français-là en colère, on va aller encore à la division. Et si on va à la division, ça sera encore les mêmes qui vont gagner. D'ailleurs, si Mme Le Pen veut bien m'embaucher, bah, cette fois, alors il n'y a pas de souci, j'envoie aussi un CV. Hein.
Ah bah, écoutez, ce que j'aime, Sébastien, c'est votre pureté idéologique. Vous vous êtes proposé à Macron, maintenant vous vous proposez à Le Pen. J'aime bien ce côté militant et sincère de votre personnalité. C'est bien, Sébastien, continuez.
France,
comme ça, vous devenez un vrai politique, vous voyez.
Au plaisir.
Merci, Sébastien. Continuez à nous appeler, hein. Ça fait plaisir. Oui, alors qui a-t-on ?
Nous sommes en direct avec Pierre qui nous a laissé d'abord un message sur Facebook qui voulait revenir notamment sur les randonnées.
Oui, les randonnées, oui Pierre.
Oui, monsieur Berkoff.
Oui, bonjour.
Je vous avais vu il y a quelques semaines, j'étais agent de voyage pour vous parler un petit peu de la profession et tout ça et des aides. Là aujourd'hui, je vous appelle parce que tout à l'heure, un auditeur de Suisse appelé ne comprenant pas pourquoi il y avait les randonnées qui étaient interdites. Alors j'habite Pau.
Oui.
Au pied des Pyrénées. Et la raison est toute simple.
Oui.
Le gouvernement ne voulait pas avoir à mobiliser les secours en montagne alors que les hôpitaux étaient surchargés. Or, le problème, malgré tout, c'est qu'on voit une fois de plus que c'est une décision prise par des parisiens nombrilistes qui ne voient qu'avec le regard de Paris, avec les hôpitaux qui étaient en effet surchargés à Paris, en Lorraine, dans l'Est.
Bien sûr.
Et nous, ici, dans le sud-ouest, les hôpitaux, il y a toute la place que l'on veut. Et je peux vous garantir que j'ai pas mal de copains qui n'attendent qu'une chose, c'est soit d'aller marcher en montagne, soit de pouvoir aller resurfer sur les plages du littoral atlantique.
Bien sûr, je comprends. Je les comprends.
Grand monde. Mais voilà, au départ, c'était fait pour ça, parce qu'ils avaient peur de mobiliser des équipes de médecins, d'hélicoptères, etc.
Bonne explication, Pierre.
Il y a quand même beaucoup d'accidents, bon, des gens inconscients, et puis après, bon, l'accident
qui arrive,
tout simplement. Et
c'est sûr,
espère qu'après le 11 mai, par contre, bon, le top feu vert va être redonné.
Voilà. Écoutez, on l'espère tous.
Félicitez Monsieur Berkoff et toute l'équipe de Sud Radio pour votre parler vrai, parce qu'il y a vraiment des infos et des données que vous donnez qu'on entend nulle part ailleurs. Et franchement, aujourd'hui, ça fait du bien d'entendre d'autres sons de cloche.
Voilà. Merci. Et on va continuer. Merci.
Oui.
Merci Pierre.
À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Et est-ce que je peux intervenir? Parce que
Oui, Sainta, absolument.
Merci beaucoup.
J'allais vous poser. Allez-y, Sainta Dupuis. Allez-y. Je rappelle que vous êtes journaliste. Ouais, allez-y.
Oui. Ça m'a inspiré une réflexion par rapport à cette espèce d'idéologie de contrôle qu'on voit. On voit aussi le même conflit aux États-Unis où là, on a un territoire immense. Il y a des types comme toujours Gates, puisque c'était le sujet de la discussion, et Fauci qui sont là pour dire mais il faut absolument un confinement total, alors qu'il y a des États où il n'y a pratiquement pas un cas, et donc les gens sont là aussi en train de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de ruiner notre économie, etc. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une politique quand même mesurée, adaptée? Et quand je vois ce qui se passe en Suède... j'imagine que vous en avez déjà discuté, je n'en sais rien, mais les gens font un confinement. Donc en Suède, il n'y a pas de confinement obligatoire. Je veux dire, donc il y a des recommandations, c'était très intéressant. J'écoutais une interview et les gens disaient écoutez, nous, le rapport que nous avons avec notre gouvernement, c'est un rapport de confiance entre le gouvernement et les citoyens. Donc les gens sont responsables. Ceux qui sont à risque, les personnes âgées, ceux qui ont des problèmes de santé, ils sortent pas. Les autres, ils vont pas. Ils ont annulé, on va dire, les grands événements. Il n'y a pas des matchs de foot avec des milliers de personnes. Mais la vie continue. Et avec s'il faut porter un masque, on porte un masque. On se lave plus les mains qu'avant, etc.
Les résultats sont bons en Suède, en plus. Le chiffre des infectés
absolument.
Et des décès...
Absolument.
Non, tout à fait, Sainta Dupuis.
Je pense qu'ils ont même moins de décès que l'année comparée à 2018 ou 2019, je sais plus très bien. Ça questionne profondément.
Ça questionne, et on va revenir avec vous là tout à l'heure sur effectivement. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Soros encore, mais je ne sais pas s'il est dans cette histoire de l'OMS, peut-être pas. On revient tout à l'heure avec vous et avec les auditeurs de Sud Radio après ceci. À tout de suite.
Et ça se passe au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et oui, dans tous mes états, dans tous nos états, avec ce qui se passe. J'avais une question, effectivement, que m'a suggéré Jean-Marie Bordry avec, à Santa Dupuis. Dites-moi, en Belgique, ça se passe un peu comme en France, confinement total, dépistage, test. Où en êtes-vous par rapport à votre voisin, Santa Dupuis?
Alors, la Belgique, généralement, se conforme toujours à ce que fait la France. Elle attend, elle observe la France, elle fait la même chose. Ça ne doit pas nécessairement être d'office comme ça, puisqu'on a quand même une partie de la population qui est néerlandophone et qui est peut-être moins dirigée sur la France. Par contre, on est quand même très fort sous l'influence de l'industrie pharmaceutique.
Donc c'est un peu... Oui,
parce que c'est quand même le premier, Glaxo, c'est le premier employeur en Wallonie. La première ministre actuelle, elle vient du MR, qui est le parti de Charles Michel, qui était l'ancien bourgmestre de la ville, qui est le siège de Glaxo à Wavre. Quand même très...
on est très inspiré de la France. Attends, on va prendre des auditeurs et on va reparler effectivement de ce qui se passe, parce que ça c'est mondial au niveau de l'OMS, au niveau de la Chine et au niveau des États-Unis notamment et au niveau de l'Europe. Est-ce qu'on a un auditeur, Jean-Marie?
Absolument, 0826 300 300, on retourne à Paris et on donne la parole à Taïeb sur Sud Radio.
Oui, bonjour Taïeb.
Bonjour Monsieur Berkoff, merci de sélectionner mon appel. Je voulais simplement donner mon avis sur ce qui se passe en banlieue parisienne. Je voulais simplement dire à ces jeunes pourquoi ils sont nés en France. Parce que leurs parents, qui sont nés en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, c'était la misère, c'était la dictature. Ils sont partis ailleurs pour être bien. Qu'ils fassent comme parents, simplement. Oui. Leurs parents, ils ont eu le courage et l'intelligence de venir en France pour vivre mieux. Ces jeunes, comme je vois, comme je pense, ça ne va pas. Je ne leur demande pas la lune. Qui font comme leurs parents. En plus, on en parle de ces gens-là qui cassent. On ne parle pas des gens qui font du bien. Par exemple, comme une association berbère, l'association de culture berbère qui se trouve à Montreuil. Des jeunes comme celui qu'on voit à la télé brûler les voitures et taper les policiers, qui distribuent de la nourriture à tout le monde.
Ouais. Vous voyez, excusez-moi, Taïeb, j'en ai parlé pour Grigny. Vous voyez Grigny, où il y a eu les émeutes, enfin où il y a eu... Vous avez écouté. Eh bien, les bénévoles de Grigny sont des jeunes de Grigny. Ils vont distribuer, effectivement, et formidable, bravo.
Moi aussi, je voulais dire qu'à Montreuil, l'association Tafalka de la culture Amazir, elle fait ça, c'est des jeunes, c'est identiquement comme les jeunes qu'on voit à la télé. Tous les jours, ils vont voir les commerçants, les gens qui peuvent donner, ils les stockent à l'association, et tous les gens qui ont besoin, ils viennent se servir. Ils viennent pas que de Montreuil, ils viennent de partout.
Ouais.
Voilà.
Ben bravo. Comment s'appelle votre association? Redites-moi.
L'association Tafalkar. Tafalkar,
d'accord. Oui.
E-R-K-A.
D'accord, Tafalkar, ok.
Voilà, Tafalkar, et je vous félicite, vous avez donné la parole à Mahendi, Farhat Mahendi, pour parler de la Kabylie. Je vous félicite.
Absolument.
Voilà.
Merci à vous, Taïeb.
Allez, au revoir.
C'est transmis et c'est bien.
Merci beaucoup.
À vous aussi.
Merci de votre appel. Merci beaucoup, Taïeb, de nous avoir appelé au 0826 300 300. On reste autour de Paris, on retrouve Jacqueline sur Sud Radio.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Jacqueline.
Bonjour tout le monde, merci pour vos émissions. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que les erreurs d'approvisionnement en masques provenaient peut-être des équipes antérieures, mais voilà. Donc je voudrais rappeler que M. Salomon faisait partie de l'équipe de Marisol Touraine, et que ce monsieur, pendant la campagne électorale de M. Macron,
lui a adressé une note lui disant ceci. La possibilité de en 2016, hein, la possibilité de survenue d'un événement naturel d'ampleur, avec un impact sur un grand nombre de personnes, tuerie de masse, afflux massif de victimes, des dommages matériels importants, un impact financier et d'image, effondrement du tourisme, et des capacités de réaction dépassées, services de secours en situation dégradée, cibles, pédiatrique, accueil des victimes irradiées ou contaminées avec des enjeux de gouvernance nationale et de vulnérabilité de l'État doit être sérieusement envisagé. La France a été confrontée aux risques majeurs depuis 1945, notamment aux événements duels de classe 5. Catastrophe majeure, plus de 1000 morts, conséquences économiques considérables. D'accord. Résultat, notre pays a donc peu d'expérience et de préparation et de gestion de catastrophes. La France n'est pas prête. Notre pays doit adapter ses organisations aux spécificités des crises majeures à venir et des nouveaux défis anticipés. Il faut se préparer,
Face aux situations. On a compris.
Sans précédent.
Donc
ce que je veux dire, c'est que ce monsieur a été chez Marisol Touraine, qu'il a écrit ça à Macron, et depuis 3 ans, il est au pouvoir, et il n'a rien fait. Voilà.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il l'a dit.
Il y avait des erreurs avant, peut-être, mais lui, il avait depuis 3 ans la possibilité de les rattraper. Le problème, c'est allez-y. Ouais.
Non, je voulais dire simplement qu'il n'a peut-être pas, et ça n'enlève rien à ce qu'il a dit, il n'a peut-être pas été écouté, il l'a dit, et puis les autres ont dit, il y a peu de risques, on ne va pas s'occuper de ça. C'est toujours pareil, ils n'ont aucune idée du risque.
D'accord, simplement, on a reproché à Mme Buzyn de ne pas avoir démissionné, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quand même grave, il le savait avant.
Tout à fait.
Il n'est pas écouté. Je suis désolée. Ces gens-là, ils sont là pour parler. Et à mon avis, ils sont là pour garder leur siège. Ils ont aidé Macron à aller au pouvoir. Et maintenant, ils ont eu leur récompense et ils gardent leur récompense. Ils se fichent complètement de la population. C'est leur siège qu'ils veulent, c'est tout.
Je ne sais pas s'ils se fichent de la population, mais ce qui est clair, c'est que rien n'a été effectivement prévu et le risque reste un risque majeur. Et justement, merci en tout cas, mais vous avez tout à fait raison, Jacqueline, c'est très lucidement vu. Je voudrais revenir avec Cynthia Dupuis qui a lancé un sacré pavé dans la mare avec ce qu'elle a écrit et ce qu'elle continue de dire et d'enquêter. Cynthia, est-ce que aujourd'hui, je voudrais faire aujourd'hui, on va parler au-delà de Trump, etc. Est-ce que l'Europe, justement, face à ça, est-ce que l'Europe, quand même, on parle toujours de l'Europe, hein, et Bruxelles, vous savez très bien, vous êtes au cœur de la bête, comme on dit, de la bête Union européenne, et c'est pas seulement péjoratif. Mais est-ce que l'Europe joue encore un rôle? On a l'impression, vous voyez, on parle de Trump, on parle de la Chine, on parle de Bill Gates, on parle de l'OMS, on parle de Tedros, on parle de l'Afrique. Mais l'Europe, on a l'impression que dans tout ça, eh ben, ça n'existe pas.
Ah bah écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que cette crise-ci va vraiment précipiter encore le désastre européen. On était déjà clairement et financièrement, de manière générale, en Europe, avec quand même une sacrée crise économique et au niveau des institutions européennes, vraiment au bord de l'effondrement, je pense. On a bien vu ici que avec la crise, par exemple, quand on voit les Italiens, les débats qu'il y a eu, ils en sont presque venus aux mains, là, hein, au Parlement européen, entre les... Parce que tout à coup, c'est la crise, c'est chacun pour soi. Hein. La solidarité européenne, on ne la voit pas. Donc les Italiens ont demandé de l'aide, ils n'ont rien obtenu du tout. Les Néerlandais leur ont dit qu'ils n'avaient qu'à se prémunir un peu mieux, etc.
Les Allemands aussi, oui, tout ça. Les Français
Italiens, par contre, ont joué un peu gros. Je pense qu'après le Brexit, déjà,
c'était le, quel serait le premier à suivre l'exemple de l'Angleterre à vouloir quitter l'Europe. Les Italiens ont justement, il y a un an ou deux avec Salvini, commencé à prendre des accords avec la Chine, parce que évidemment l'Italie, c'est une position stratégique par rapport à la route de la soie et tout, tout on revient à la Chine, mais c'est impérialiste.
D'ailleurs, vous l'avez dit, l'OMS a encouragé d'ailleurs les Chinois à aller en Italie, etc. Enfin bon. C'est ce que vous avez dit.
C'était complètement ahurissant, cette affaire. Mais en réalité, on voit que personne n'a soutenu l'Italie. Et donc, finalement, les Chinois envoient de l'aide. très intéressant. Vous savez bien, quand le nord de l'Italie, c'est là où il y a eu la plus grande mortalité. Et tout n'est pas très clair, il y a beaucoup, parce que le virus, pourquoi est-ce que le virus n'a pas exactement un impact très proche, on va dire, en Suisse, qui est quand même juste à côté, les virus connaissent pas les frontières, donc il y a bien d'autres facteurs qui interviennent que seulement le virus, et les Russes ont envoyé des équipes de médecins militaires, à la fois, pour aider, mais je pense pour être déjà sur le terrain, surtout aussi pour essayer de savoir ce qui s'y passe vraiment et quels sont qu'est-ce qui peut expliquer finalement ces chiffres alarmants. Moi, je pense que plus on attend, avec plus on reste confiné, plus l'économie va s'écrouler, plus la Chine,
La Chine va s'étendre.
Vont partager les miettes qui restent, quoi. Ça c'est clair.
Et ce que vous dites, et moins l'Europe va exister. Exactement. C'est ça qui est terrible aussi.
Oui, tout à fait. On a vu que la Banque centrale européenne, ça c'était intéressant, dès le mois de février, je pense, a pris des mesures qui dureraient, donc où ils ont injecté la planche à billets là, des mesures qui dureraient jusqu'à la fin de la crise du coronavirus, ou en tout cas minimum jusqu'au 31 décembre. Donc je veux dire.
Qui vivra verra, qui votera verra. En tout cas, Saint-Ain du Puy, merci de votre témoignage, merci de votre enquête. Encore une fois, merci de ce pavé dans la mare. Écoutez, s'il y a évidemment des gens qui ont envie de répondre, qui disent non, c'est pas du tout comme ça, l'antenne leur est ouverte, libre parole, mais surtout nous, on essaie de parler de ce que les autres ne parlent pas. Merci.
Merci à tous de nous avoir appelés sur Sud Radio. Merci André Berkoff. Vous revenez demain à midi, toujours confiné de midi à 14h en direct sur Sud Radio. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio, c'est Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonne journée.